19h30, temps universel. Washington, la voix de l'Amérique. Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
Bonsoir l'Afrique, bonsoir à tous. Ravi de vous retrouver sur les ondes de la Voix de l'Amérique. Le Monde aujourd'hui, édition du jeudi 3 avril 2014, en direct du studio 13 à Washington. Au micro, Morgane Guerriec et Nicolas Pinault. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir Morgane.
Au sommaire ce soir, le Tchad annonce son retrait de la MISCA en Centrafrique.
Ce problème-là, qui est perçu par la population centrafricaine comme réellement un des problèmes principaux de la crise actuelle.
Retour aussi sur le 20e anniversaire du génocide au Rwanda cette semaine. Et puis ici aux États-Unis, la Cour suprême lève les limites des contributions financières des particuliers en politique. Une décision qui suscite des réactions. Roger Muntou viendra pour nous embrouillancer les oreilles en fin d'émission. Mais tout d'abord, le journal. Vous écoutez La Voix de l'Amérique. Bonsoir à tous.
Coup de tonnerre ce soir, depuis N'Djamena, le gouvernement tchadien annonce le retrait de son contingent de la force de l'Union africaine en Centrafrique. Dans un communiqué, le ministre tchadien des Affaires étrangères dénonce une campagne gratuite et malveillante contre ses troupes. Cette sortie intervient alors que le week-end dernier, des soldats tchadiens ont tué au moins 24 personnes dans les quartiers nord de Bangui, après avoir été la cible d'une attaque à la grenade, selon la MISCA et le gouvernement centrafricain.
La présidente centrafricaine de la transition, Catherine Samba Panza, a annoncé mardi l'ouverture d'une enquête sur cette affaire. Sur la décision de retrait des troupes tchadiennes, nous écoutons le ministre tchadien des Affaires étrangères, Moussa Faki Mahamat.
Le contingent tchadien n'est pas parti de lui-même en Centrafrique, il est parti dans le cadre d'une mission internationale. D'abord une mission de la sous-région TAC, ensuite une mission de l'Union africaine avec un mandat des Nations Unies. Curieusement, il est particulièrement visé. Son contingent et les citoyens tchadiens vivant en Centrafrique sont pris à partie. Nous avons déjà enregistré d'ailleurs le nombre le plus important des soldats de la paix qui ont été tués. Nous avons enregistré également plusieurs centaines de Tchadiens qui ont été assassinés dans les biens publics. Alors, les circonstances dans lesquelles évolue la situation nous a amenés, pour clarifier cette situation, de décider de retirer nos troupes et d'essayer d'aider la Centrafrique autrement.
Votre communiqué parle d'une campagne gratuite et malveillante contre les soldats tchadiens. Qui mène cette campagne selon vous?
Écoutez, il y a plusieurs milieux qui la mènent, par voie de presse, par voie de communiqués, avant lui-même, et par des actes contre le Tchad et contre les Tchadiens. Nous n'arrivons pratiquement pas à comprendre. Nous sommes venus pour aider la Centrafrique à recouvrer la paix et la stabilité, et on nous prend à partie comme si nous faisions partie du problème. Alors dans ces conditions, on ne peut pas continuer à rester.
Moussa Faki Mahamat, ministre tchadien des Affaires étrangères, joint par Timothée Donangmaï.
Autre annonce à Bruxelles, l'Union européenne affirme qu'elle va enfin déployer d'ici le mois de mai ses 800 soldats en Centrafrique. Plusieurs fois reporté, l'envoi de cette force a pour but de sécuriser l'aéroport de Bangui.
Sachez aussi que Catherine Samba Panza a rencontré le secrétaire général de l'ONU, toujours à Bruxelles. Il a été question de sécurité et la situation humanitaire.
L'Ebola continue de faire des victimes. En Guinée, le gouvernement dénombre 84 décès sur 134 cas enregistrés, dont 35 cas d'Ebola confirmés en laboratoire. Le bilan s'est également alourdi au Libéria, puisque l'Organisation mondiale de la santé parle désormais de 8 cas.
Fin de la visite de John Kerry en Algérie. Le secrétaire d'État américain a rencontré à Alger son homologue algérien Ramtane Lamara. Ils ont discuté de la lutte contre le terrorisme dans le Sahel et le Maghreb, compte tenu de Nathalie Barge.
John Kerry a dit que Washington et Alger travaillent à améliorer la coordination de la sécurité pour lutter contre le trafic de drogue et les enlèvements contre rançon qui finance le terrorisme dans la région.
We want to do this so that Algerian security services have the tools.
Nous voulons faire en sorte que les services de sécurité algériens aient les outils et la formation nécessaires pour vaincre Al-Qaïda et d'autres groupes terroristes, et nous allons travailler pour s'attaquer à l'instabilité qui s'est propagée dans tout le Maghreb et le Sahel. Son homologue algérien Ramtane Lamara a déclaré que l'Algérie n'abandonnera jamais sa lutte contre le terrorisme et a demandé aux États-Unis un soutien en surveillance électronique.
The Sahel region has abruptly evolved into one of our preeminent concerns.
La région du Sahel est subitement devenue une de nos principales préoccupations en matière de terrorisme, trafic des êtres humains, de la drogue, et toutes sortes d'activités criminelles ont tissé leur toile et construit leur réseau, menaçant la stabilité et l'existence même des populations et des États de la région. Pour lutter efficacement contre le terrorisme, il faut créer des emplois et permettre l'accès aux services de base essentiels tels que l'eau et l'énergie, a souligné le chef de la diplomatie algérienne. Le secrétaire d'État américain lui a emboîté le pas, ajoutant qu'une alternative est primordiale pour une population de jeunes chômeurs de plus en plus nombreux. Après Alger, John Kerry est attendu à Rabat pour coprésider avec son homologue marocain Salaheddine Mezwar les travaux de la deuxième session du dialogue stratégique Maroc-États-Unis.
Et au cours de cette visite, John Kerry a aussi parlé de, évidemment, le Proche-Orient. Les pourparlers de paix sont à un moment critique, selon lui, et il appartient aux dirigeants israéliens et palestiniens de poursuivre et maintenir le processus de paix.
Le pape François exhorte les évêques rwandais à prendre l'initiative pour œuvrer à la réconciliation nationale 20 ans après le génocide. François recevait pour la première fois 9 évêques rwandais venus à Rome. Il leur a demandé de renforcer les relations de confiance avec l'État et soutenir les familles blessées.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Il est 19h36, temps universel dans le reste du monde. Au Texas, retour sur la fusillade hier sur une base militaire américaine à Fort Hood. 3 personnes sont mortes, 16 autres blessées. Le tireur, lui, s'est suicidé. Jean-Roger Billon, les enquêteurs cherchent à présent quelles étaient les motivations du tireur.
L'armée n'a pas officiellement publié le nom du tireur, mais certains l'ont identifié comme Ivan Lopez. Les enquêteurs veulent savoir si les 4 mois de service comme tireur en Irak en 2011 ont éventuellement contribué à son acte. Le responsable civil de l'armée de terre, John McHugh, a confié au Sénat ce jeudi que le tireur n'était pas directement sur la ligne de front en Irak. Il a ajouté qu'il a été vu par un psychiatre le mois dernier et n'a montré aucun signe de violence. D'autre part, aucune indication ne montre que le tireur est lié à des organisations extrémistes, si l'on en croit le commandant de la base de Fort Hood, le lieutenant-général Mark Milley. Fort Hood a déjà été le théâtre d'une fusillade en 2009. 13 personnes avaient été tuées et plus de 30 autres blessées quand un psychiatre de l'armée avait ouvert le feu sur le personnel. Le Pentagone a ordonné une sécurité renforcée dans toutes les bases américaines après cette nouvelle fusillade à Fort Hood.
Au Pakistan, Pervez Musharraf a survécu à ce qui ressemble à une tentative d'assassinat. Une bombe a explosé après le passage de son convoi, laissant un grand cratère sur la route. La police a déclaré que M. Musharraf revenait d'un hôpital de Rawalpindi en direction de sa ferme en dehors d'Islamabad. Personne n'a été blessé. Pervez Musharraf, qui est rentré d'exil l'année dernière, est accusé de trahison pour avoir déclaré l'état d'urgence en 2007. Il avait alors suspendu la constitution. Et s'il est reconnu coupable, il encourt la peine de mort.
En Ukraine, Viktor Yanukovych reconnaît avoir commis une erreur en demandant l'intervention russe en Crimée lors de la crise ukrainienne, présence qui a permis ensuite à Moscou d'annexer ce territoire en mer Noire. Le président déchu a fait cet aveu lors d'une interview accordée depuis la Russie. Il a affirmé qu'il ferait tout pour persuader Moscou de rendre ce territoire dans le giron de Kiev.
La Corée du Sud reconnaît qu'un drone de surveillance a survolé le palais présidentiel de Séoul. L'avion sans pilote a pris plusieurs photos avant de s'écraser près de la frontière. Les autorités sud-coréennes pensent qu'il s'agissait d'un drone envoyé par Pyongyang. Séoul souligne que l'avion était grossièrement construit et qu'il n'aurait pas pu être utilisé comme arme. La Corée du Sud estime cependant que s'ils avaient été développés, de tels drones pourraient servir à des fins terroristes dans le futur.
Au Chili, forte réplique cette nuit après le séisme de mardi qui a frappé le pays et fait au moins 6 morts. La secousse a atteint 7,8 sur l'échelle de Richter et a contraint les autorités chiliennes à émettre une alerte au tsunami et évacuer des dizaines de milliers de personnes le long de la côte.
Le gouvernement américain accusé d'avoir secrètement financé un réseau social à Cuba. D'après l'Associated Press, Washington entendait utiliser Zunzuneo pour saper le gouvernement communiste cubain, mais l'Agence américaine pour le développement international, USAID, qui aurait mis en place ce service. L'idée, c'était de créer une version cubaine de Twitter. Zunzuneo permettait de poster des messages de 140 caractères maximum.
Et Morgan, le réseau social aurait attiré des dizaines de milliers d'abonnés qui, d'après l'agence de presse, n'étaient pas au courant que le gouvernement américain était derrière Zunzuneo. D'après Associated Press, les États-Unis comptaient par la suite se servir de ce média pour mobiliser les foules et organiser des manifestations politiques. Des allégations rejetées par la Maison Blanche qui affirme que Zunzuneo n'était qu'un programme de développement.
On reparle des réseaux sociaux avec la fin du blocage de Twitter en Turquie. Le gouvernement turc a décidé la levée de la mesure après l'arrêt rendu hier par la Cour constitutionnelle qui a estimé que cette mesure constituait une violation de la liberté d'expression et a ordonné sa levée immédiate. Voilà pour le journal. Nous sommes toujours en direct de Washington. Morgan Guiriec et Nicolas Pinault pour vous présenter la deuxième partie du Monde aujourd'hui.
On reparle de la décision tchadienne de se retirer de la MISCA en Centrafrique. Compte tenu de l'histoire de la présence militaire tchadienne dans le pays, ce retrait annoncé fait suite aux accusations répétées.
Dernier incident en date, le week-end dernier, où au moins 24 personnes ont été tuées à Bangui lors d'incidents impliquant des soldats tchadiens. Pour une analyse, Nicolas Pinault a joint le chercheur du CERI, Roland Marchal.
De façon très diplomatique, on peut dire que l'encadrement des soldats tchadiens est relativement faible et que donc il est possible que les contingents tchadiens aient des dérapages, comme ce qui vient de se passer à Bangui ce week-end, et qu'à partir de ce moment-là, le coût diplomatique est beaucoup plus élevé que, disons, le sacrifice financier fait par les tchadiens d'envoyer des troupes. Mais je crois aussi, d'un autre côté, il y a un moment de dépit de la part du président tchadien de souligner qu'il a quand même fait beaucoup pour la Centrafrique et que finalement, on lui en veut. Finalement, le plus inquiétant dans tout ça, les Centrafricains ne s'expriment pas beaucoup sur ce problème-là qui est perçu par la population centrafricaine, les gens ordinaires, comme réellement un des problèmes principaux de la crise actuelle.
Est-ce que cela signifie la fin de l'influence tchadienne en Centrafrique ?
Le Tchad est un voisin de la RCA, c'est un voisin qui est militairement extrêmement influent, officiellement par son armée ou officieusement par l'aide qu'elle peut donner à des mouvements armés. Les réfugiés de Centrafrique qui sont aujourd'hui au Tchad sont des vecteurs, si vous voulez, de l'économie centrafricaine. Donc d'une certaine façon, oui, on pourrait dire, et certains Centrafricains en rêvent, que bon, ben maintenant le Tchad est parti, notre pays redevient indépendant. Mais je crois qu'il faut se rendre compte que le départ du Tchad va créer un vide, et c'est, je crois, un des calculs faits par Idriss Déby, qu'à partir de ce moment-là, tôt ou tard, les élites centrafricaines vont devoir se retourner vers Idriss Déby. Pas parce qu'elles ont absolument besoin du Tchad, mais parce qu'elles sont trop peu ambitieuses, trop peu autonomes par elles-mêmes pour reconstruire le destin de leur propre pays, la Centrafrique, indépendamment d'un voisin aussi puissant que le Tchad.
Le chercheur Roland Marchal, il était joint à Tokyo. Voyons à présent les réactions dans la capitale centrafricaine depuis Bangui. Le reportage de notre envoyé spécial, Bagassi Koura.
La nouvelle ne s'est pas vite répandue dans Bangui. Le premier ministre André Nzapayeke, qui s'est adressé dans l'après-midi aux représentants de la communauté internationale, n'a pas dit mot sur ce retrait annoncé des troupes tchadiennes. Il a plutôt réaffirmé le soutien de son gouvernement aux efforts de la communauté internationale.
Globalement, je voudrais simplement rassurer tous ceux qui sont chez nous et qui travaillent avec nous, que le gouvernement est en phase totale avec les règles qui ont été arrêtées.
Aux abords du marché de Boirab, l'un des quartiers populaires dans le nord de Bangui, les riverains ne cachent pas leur joie.
Ils sont venus pour nous aider, c'est ce qu'ils ont dit au début. Et puis à la fin, voilà, c'est du n'importe quoi. Donc on n'est pas d'accord qu'ils s'en aillent. Il faut qu'ils s'en aillent.
Ngombe Jean-François affirme avoir étudié au Tchad. Il dit aimer bien les Tchadiens, mais pas son contingent en RCA.
Oh, c'est un soulagement pour nous, parce que nous sommes totalement dessus de cette armée qui est une machine de tuerie pour tous les Centrafricains. Nous sommes totalement dessus. Pas pour le contre le Tchad, mais ces troupes tchadiennes déployées ici. Vraiment, manque de respect vis-à-vis de notre nation que nous sommes et de notre territoire. L'intégrité territoriale de notre pays est totalement violée par cette armée déployée.
Les soldats tchadiens de la MISCA sont accusés de nombreuses exactions dans le pays. Les dernières en date remontent au week-end dernier où des tirs qui leur ont été attribués ont fait une trentaine de morts au PK-12. La société civile avait ces derniers jours demandé leur départ du pays. Les miliciens anti-Balaka aussi, ces derniers qui ont eu de nombreux accrochages avec les militaires tchadiens, se disent aujourd'hui satisfaits. Brice Emotion Namzio, le porte-parole des anti-Balaka.
C'est un ouf de soulagement pour le peuple centrafricain tout entier. Parce que les forces armées tchadiennes considèrent la République centrafricaine comme leur 26e ou 29e préfecture. Ça, c'est de 1. Et les troupes tchadiennes considèrent le peuple centrafricain tout entier comme leur gibier.
Le journaliste Ferdinand Naguez trouve que le retrait des Tchadiens est une bonne chose pour le pays, mais craint que ces derniers ne fomentent plus tard une nouvelle rébellion dans le nord de Bangui. Bagassi Koura pour la Voix de l'Amérique.
La Voix de l'Amérique en République centrafricaine à Bangui sur 101.7 FM.
Commémoration du génocide rwandais, 20 ans bientôt que l'avion présidentiel s'est abattu sur Kigali, déclenchant les sinistres massacres de 1994.
Toute la semaine, le Rwanda se souvient de cette tragédie, notamment les jeunes dont certains n'étaient pas nés à l'époque des faits. Quel regard portent-ils sur leur pays 20 ans après? Élément de réponse avec Lionel Game.
Parmi ces jeunes rwandais, des membres d'une association d'élèves survivants du génocide qui ont organisé une marche à la mémoire de 800 000 personnes tuées il y a 20 ans. La plupart d'entre eux sont au lycée, ce qui signifie qu'ils étaient trop jeunes pour se rappeler aujourd'hui les horreurs d'alors, mais qui ont changé à jamais leur vie. Beaucoup ont perdu des membres de leur famille, ils sont donc venus au mémorial de Nyanza pour commémorer et se réconforter mutuellement. Fabien Akaikumutima, 20 ans, est chargé du volet éducation de l'association. Il est important de venir ici parce que c'est le meilleur moyen d'honorer la mémoire de nos parents et amis qui sont enterrés dans ces tombes. À Nyanza, quelques 2000 personnes ont été tuées en avril 1994 alors qu'elles croyaient avoir trouvé un sanctuaire dans une école non loin de là. Pour ces élèves, l'éducation est essentielle pour éviter la répétition du passé. De nouveau, Fabien. En disant la vérité sur ce que je sais et en aidant les enfants pendant qu'ils grandissent, je dois leur expliquer clairement ce qui s'est passé parce qu'il y a d'autres personnes qui pourraient leur donner des fausses explications. Les cicatrices du génocide sont encore visibles au Rwanda, mais on peut voir partout le progrès fait dans le domaine du développement et cela donne un plus grand espoir à la nouvelle génération. Christian Kuisinga et Marie-Josée Wayezu, par exemple, ont été admis cette année à l'université américaine Dartmouth après avoir obtenu d'excellentes notes à Bridge to Rwanda de Kigali. Tout comme Christian, Marie-Josée est optimiste sur l'avenir de son pays. Quand on vous donne une chance, je crois que vous devez à votre tour donner la chance à quelqu'un d'autre parce que vous savez, nous ne sommes qu'une nation et c'est la chose à retenir. De son côté, Christian Kuisinga affirme. Vous pouvez voir qu'après ce qui a été atteint par le génocide, nous vivons maintenant une période de réconciliation et de paix. Et je crois que ce n'est pas quelque chose qui devrait affecter notre façon de penser sur ce que nous devions faire pour l'avenir. Vingt ans après, la nouvelle génération de Rwandais se tourne résolument vers le futur sans pour autant oublier le passé.
La Voix de l'Amérique à Kigali, au Rwanda, sur 104.3 FM.
La Cour suprême des États-Unis a rendu hier une décision importante sur les contributions financières aux campagnes électorales. Cette décision ouvre peut-être la voie à une plus grande influence de l'argent dans les scrutins. Les précisions de Timothée Donongmaï.
Par un vote de 5 voix contre 4, la majorité conservatrice de la Cour suprême a annulé la limite fixée aux contributions des donateurs en faveur des candidats fédéraux et des partis politiques. Cette limite, fixée à 123 200 $ sur une période de 2 ans, disparaît. Mais les contributions d'une personne donnée à un candidat restent limitées à 2 600 $. Ainsi, les riches donateurs pourront fournir des millions de dollars aux campagnes électorales, ce qui ne fera qu'accroître leur influence. Les républicains sont ravis, comme l'a expliqué leur président national, Reince Priebus. Le premier amendement s'applique à nous tous. Les gens devraient avoir le droit d'exercer leur liberté d'expression et de donner leur argent à autant de candidats, de comités politiques et comités d'action politique qu'ils veulent. Les démocrates ont fustigé la décision comme étant une défaite pour l'électeur moyen et une victoire pour les riches cherchant à exercer une influence indue sur les élections américaines. Le sénateur démocrate Charles Schumer de New York a sévèrement critiqué les conservateurs de la Cour suprême. Ils veulent démanteler toutes les limites sur les dons électoraux pièce par pièce jusqu'à ce que nous nous retrouvions à l'époque des barons voleurs lorsque quelqu'un ou une entité pouvait donner de l'argent en montants illimités de manière confidentielle et faire que notre système politique paraisse si truqué que tout le monde perde intérêt dans notre démocratie. La décision a également suscité des critiques de divers groupes qui soutiennent le renforcement des lois sur le financement des campagnes électorales pour combattre la corruption politique. Les sondages montrent que les Américains sont inquiets du rôle des riches donateurs dans les élections, mais ce problème se range plutôt au bas de la liste de leurs préoccupations.
Place au sport à présent. Dans notre émission, nous accueillons Timothée Donongmaï. Bonsoir Timothée.
Bonsoir Nicolas.
Timothée, on commence par du football, hein, les matchs, les quarts de finale de la Ligue Europa en Europe.
Et oui, on a ce soir le FC Valence qui se déplace à Bâle, Lyon qui accueille la Juventus de Turin, Alkmaar Benfica et puis le FC Porto contre FC Séville.
Toujours en Europe, Timothée, Ibrahimovic absent des terrains pour un mois.
La star suédoise du PSG, blessée à la cuisse mercredi contre Chelsea, sera absent 4 semaines selon son président Nasser Al-Khelaifi. Il manquera donc le quart de finale retour de la semaine prochaine en Angleterre.
Les États-Unis continuent leur préparation pour le Mondial 2014. Ce sera au Brésil, c'est dans 2 mois. Ils ont fait match nul 2-2 hier contre le Mexique à Glendale, dans l'Arizona.
Et oui, Nicolas, les États-Unis ont bien joué la première manche de cette partie, menant par 2-0 à la mi-temps. Bradley leur a donné l'avantage en marquant sur un corner dès la 15e minute, suivi 13 minutes plus tard par Chris Wondolowski. Et au retour des vestiaires, les Mexicains se sont rattrapés en inscrivant d'abord par leur capitaine Rafael Marquez à la 49e minute, puis par Alan Pulido à la 67e minute.
Et Timothée, à la faveur de ce match, le jeune Julian Green a fait ses débuts chez les seniors américains.
Et oui, né à Tampa en Floride, Green, qui est âgé de 18 ans, a grandi en Allemagne. C'est un pur produit de la pépinière du Bayern Munich. Après avoir joué avec les cadets et juniors tant américains qu'allemands, il avait décliné l'an dernier l'invitation du coach des États-Unis, Jürgen Klinsmann, à revêtir le maillot de Team USA Senior, c'est désormais chose faite.
Allez, on reste aux États-Unis. Une plus grosse balle, elle est orange, et du basket, on va parler de NBA, Timothée.
Et Charlotte a humilié Philadelphie 123 à 93 hier soir. Indiana a eu raison de Détroit 101 à 94. Il y a eu aussi cette victoire un peu plus serrée de Toronto 107 à 103 face à Houston. Et puis Orlando a été battu par Cleveland 119 à 98. New York a écrasé son voisin de Brooklyn 110 à 81. Chicago a devancé Atlanta 105 à 92. Miami a expédié Milwaukee 96 à 77. Enfin, Washington, qui s'est bien débrouillé hier soir, Nicolas, c'était face à Boston 118 à 92.
Et Timothée, l'équipe de la capitale fédérale, hein, qui n'a pas fini de célébrer cette victoire.
Et pour cause, Nico, elle leur ouvre les portes des playoffs, le tournoi de fin de saison, des portes qui leur étaient resté fermé depuis 2008 et une traversée du désert de 6 ans à laquelle les Wizards sont soulagés de mettre fin à la grande joie de leurs fans.
Ah, ça va vibrer au Verizon Center. C'était Timothée Donongmaï pour le Journal des Sports.
Voilà, c'est maintenant l'heure de notre page musicale avec Roger Muntou et ses dernières nouvelles de Vibes Cartel.
Exactement, Morgane. Adija Palmer, plus connue sous son nom de scène Vibes Cartel, chanteur jamaïcain de dancehall, est reconnue coupable du meurtre de Cleve Williams. Vibes est condamné à la prison à perpétuité. Une de ses meilleures chansons, Soumadi Afi.
Yo, lay! Me no care, care, be intimidated. Me say, no. Me no, no. Be frightened, man. Me no care, no. Be sure, girl. Talk till you run out of breath. Me not take no disrespect. From a boy violate, yo, not nice. Somebody ya fi ball, somebody ya fi ball, somebody ya fi lay down and can't breathe. I'm out some boy run off, me fly full speed. Somebody ya fi lay down and can't breathe. Hey. I could a bulletproof you're wearing. Talanta do the tearing. Gaza straight to me aiming. Me give the sherry, share and caring. Push the fury through the window. With one hand up on the steering. The devil say me scaring. And Kingfisher say me too daring. If I dip the ray, I'm me blazing. And if I dip numb stone, you're tasting. In a face, I move them eye glass. In a ears, I move them ears ring. No boy, they run like you see in boat. Where dear you when in the ya Beijing. I be a things with my rise day. Somebody ya fi ball, somebody ya fi ball, somebody ya fi lay down and can't breathe. I'm out some boy run off, me fly full speed. Somebody ya fi lay down and can't breathe.
Them a loose man from day one. We spray spray like beer gun spray can.
No sir. 16,
3 on.
No, me no need tea.
Me one.
Well, I make them.
New brand.
Flash faster than Western.
Union.
Connect from Gaza, go cross De La Vega to Kaman Waman.
Big yard, Boonan.
We are clamped them softly.
Voilà, presque trois semaines après le verdict du 13 mars, hein, la condamnation est tombée aujourd'hui et ils ont été donc reconnus coupables, prison à perpétuité. J'espère que ça ne va pas nous priver de sa musique.
Mais ça, c'est une très bonne question. Je vois Nico qui n'est pas d'accord. Est-ce que tu crois, Nico?
Non, je m'apprête à jumper sur le beat. Non, en fait, la question, c'est est-ce que tu penses aussi que ça a peut-être servi d'exemple, cette sanction?
Oui, moi, je crois bien que ça sert d'exemple pour les autres. Mais si il a le droit de continuer à faire de la musique pendant qu'il est en prison, je crois pas que c'est un exemple parce que il continue à faire de l'argent, il continue à faire ce qu'il aime bien faire, mais finalement c'est pas une punition ça.
Mais en fait bon, je sais pas, hein, on peut pas dire comme information pour sûr qu'on sait qu'il continue à faire de la musique.
Ouais.
Le fait est que ça fait quand même un moment qu'il est en prison. Et voilà, au cours des mois passés, de l'année passée, il était déjà en prison et il y a des sons qui sont sortis sur, il me semble, des instrus de cette année, pas des anciennes instrus. Donc, je ne sais pas comment ils font, il faudrait qu'on se renseigne.
Mais c'est vrai, ça, on doit vraiment chercher cette information. Là, mais Morgane, tu vas te rappeler que Tupac, par exemple, est mort, mais on a continué à voir deux ou trois albums après.
Tupac, il n'est pas mort.
voilà, tu vois exactement ce que j'allais dire.
Du complot.
J'allais dire qu'il y avait des gens exactement comme Nico.
Tupac, il est sur une île déserte.
Voilà,
hein.
Exactement. Ah bon. Il y a des gens aujourd'hui qui croient comme Nico que Tupac n'est pas mort.
Non, moi, je ne le crois pas, mais c'est vrai que par exemple, il y avait cette anecdote, c'est que Tupac, il avait une paire de Nike qui n'était pas sortie à l'époque, le jour où il a été assassiné. Et ça, c'est un des éléments qui a alimenter aussi la théorie pour les gens que Tupac n'est pas vraiment mort. C'était un des éléments, cette paire de Nike qu'il avait, qui n'avait jamais été sortie à l'époque.
Mais alors s'il n'est pas mort, je crois qu'il est en Guadeloupe, ça c'est sûr.
Ben bien.
Mais écoutons ce morceau, cette belle voix de Vibes.
Take a bite, cause you look so scrumptious, voluptuous. I'm loving it. Now you got me singing, oh yeah. Now I bet you I can tell I'm a million. Singing, oh yeah, oh yeah. In the club, in the hood, in the building. Singing, oh yeah, oh yeah. You don't even know why you're turning up your radio. Bobbing your head in your car cause you're dreaming. Don't be mad cause I got you. Singing, oh yeah, oh yeah. Singing, oh yeah. I know this song a little annoying, oh yeah.
Voilà, donc c'était une petite page spéciale Vibes Cartel. Merci Roger.
Au revoir Morgane.
Roger Moutou, que vous retrouvez tous les soirs dans le RM Show à 20h, temps universel. Ainsi s'achève cette émission. Merci de nous avoir suivis. C'était Morgane Guiriec et Nicolas Pinault. À demain.